Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent aux Jeux Olympiques. Un pays, une médaille d'or. Le Guatemala. Adriana Ruano Oliva, 29 ans, va devenir une héroïne nationale. La tireuse guatémaltèque vient de remporter la médaille d'or en fosse olympique aux Jeux de Paris 2024. Elle est la première championne olympique de l'histoire de son pays. Elle est née le 26 juin 1995 à Guatemala. Elle commence le sport en faisant de la gymnastique artistique, mais en 2011, 20 jours avant l'étape de la Coupe du Monde à Tokyo, on lui diagnostique une blessure à la colonne vertébrale. Les médecins lui déconseillent de participer à la compétition, considérant qu'elle avait 50% de chances de finir paralysée. Elle se tourne alors vers le tir sportif. Sélectionnée pour les Jeux Olympiques d'été de 2020, elle termine à la 26e place de l'épreuve de la fosse olympique. En 2023, elle est sacrée championne panaméricaine de balle trappe aux Jeux panaméricains à Santiago du Chili. Lors de l'épreuve de fosse olympique femme aux Jeux olympiques d'été 2024 à Paris, Adriana Ruano Oliva remporte la médaille d'or avec 45 points, un nouveau record olympique, devant l'Italienne Maria Stanco et l'Australienne Penny Smith. C'est le premier titre de l'histoire du Guatemala. Le Guatemala est un pays d'Amérique centrale, frontalier avec 4 pays, le Mexique, le Belize, le Salvador et Honduras. Il est bordé au nord-est par la mer des Caraïbes, et à l'ouest-sud-ouest, par l'océan Pacifique. C'est le troisième pays de l'Amérique centrale par sa superficie, mais il en est le plus peuplé. Il fait également partie de l'Amérique latine. En 2024, le Guatemala compte 18 millions d'habitants. Sa monnaie nationale est le Quetzal, faisant référence à l'oiseau sacré dont les Mayas utilisaient les longues plumes de la queue comme objet de luxe. D'ailleurs, il est dit par les Guatémaltèques que les Mayas utilisaient les plumes non seulement comme objet de luxe, mais aussi comme monnaie courante. Ce serait donc là que deviendrait le nom de la monnaie. La civilisation Maya est apparue environ 1000 ans avant l'ère chrétienne. Elle s'est développée dans presque tout le Guatemala actuel, où elle a construit de nombreuses villes. Cette civilisation a prospéré dans la majorité du territoire qui constitue aujourd'hui le Guatemala et les régions environnantes pendant environ 2000 ans avant l'arrivée des Espagnols. Pendant la période coloniale, sous domination espagnole, qui a duré près de 300 ans, le Guatemala était une capitainerie générale, la capitainerie générale du Guatemala. Elle s'étendait de la région de Soconusco, dans le sud du Mexique, dans les Chiapas, allant jusqu'au Costa Rica. Les encomiendas voulaient christianiser les groupes autochtones mayas qui ont été utilisés comme esclaves. Pedro de Alvarado, un conquistador espagnol, détruisit les villes et soumit brutalement les peuples mayas d'Amérique centrale entre 1523 et 1527. Cet esclavage a été aboli par l'intervention de l'évêque Fray Bartolomé de las Casas dans les années 1550-1551 grâce à la controverse de Valladolid. En 1808, l'Espagne est envahie par Napoléon Ier. Même si l'Espagne se retrouvait sous le contrôle de l'Empire français, une ville du sud du pays échappait, Cadix. Cette ville était dominée par les libéraux, désireux de mettre un terme à l'absolutisme. Ses dirigeants provoquèrent des élections à Cadix pour former un congrès qui serait constitué de députés en provenance de tous les territoires espagnols, y compris ceux situés en Amérique. La constitution de Cadix s'inspirait des grands principes de la Révolution française de 1789, tels que la souveraineté nationale, la séparation des pouvoirs, la division administrative du pays en provinces et le droit de propriété ou l'égalité. On voit, grâce à cela, apparaître la première forme de démocratie en Amérique où le droit de vote est accordé à tous les hommes, y compris les indigènes. Par la suite, En 1821, l'annexion à l'Empire mexicain fut décidée. Le 1er juillet 1823, c'est la proclamation de la seconde indépendance de l'Amérique centrale et c'est ainsi que naît la Fédération de l'Amérique centrale. Une charte appelée base de constitution fédérale qui concerne le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Costa Rica et le Nicaragua est instaurée le 22 novembre 1824. Durant près d'un siècle, nombre de dictateurs se succédèrent et favorisèrent les immigrants européens et les intérêts nord-américains. Les Amérindiens se virent spoliés de toute leur exploitation et durent se réfugier vers les terres arides du Nord. Le Guatemala est alors le premier producteur de bananes et de fruits tropicaux des Caraïbes, son unique ressource pour l'essentiel de ses terres et de son économie est aux mains de l'United Fruit Company, une société nord-américaine qui s'installe en 1901 dans le pays. La colonisation belge débute avec un navire expéditionnaire envoyé par Léopold Ier de Belgique en 1842. Lorsque les Belges prennent connaissance des ressources naturelles du pays, Léopold Ier décide d'installer à San Tomás de Casillas un campement pour construire des infrastructures dans la région. Le gouvernement du Guatemala cède la région en échange d'une rente annuelle de 16 000 dollars à lui verser à vie. Les premiers colons allemands arrivent au milieu du XIXe siècle. Rapidement, ils acquièrent des terres et exploitent des plantations de café. Les Allemands développent aussi la culture du thé, du cacao, de la vanille. Miguel Garcia Granados devient le leader de la révolution libérale à partir de 1870. Entre 1898 et 1920, la dictature de Manuel José Estrada Cabrera censure la presse, persécute l'opposition, favorise les membres des grandes familles du café. Elle octroie d'énormes avantages aux compagnies étrangères qui investissent dans le pays, en particulier l'United Fruit Company. L'implantation dans le pays des firmes étrangères s'effectue au prix de la dépossession des indigènes, de la destruction de leur communauté, de la prolétarisation des paysans, soumis à l'obligation de travail sur les plantations capitalistes nouvelles et à la misère des salaires de subsistance. En 1933, le président Jorge Ubico Castañeda, à la tête du pays depuis 2 ans, fait adopter une nouvelle constitution qui retire le droit de vote aux illettrés, 75% de la population, principalement les descendants des Mayas. Il instaure en 1934 une loi contre le vagabondage, chacun devant avoir un carnet de travail dans lequel étaient indiqués les jours et le nombre d'heures par jour pendant lesquelles il travaillait. En l'absence de celui-ci, les personnes sont réquisitionnées pour effectuer des travaux publics d'intérêt général. Sa présidence profite beaucoup à l'élite agro-exportatrice et surtout à la United Fruit, qui se voit offrir un appui infaillible. Lors de la guerre civile espagnole, le régime soutient sans ambiguïté le camp franquiste. En 1945, Juan José Arévalo, le président nouvellement élu, instaure une nouvelle ère d'investissements sociaux. Il met en place un code du travail, autorise le droit de grève et fonde un institut indigéniste. Les tensions sont alors particulièrement fortes entre les grands propriétaires d'une part, syndicats et partis communistes du Guatemala d'autre part. En juin 1954, son successeur, Jacobo Arbenz Guzmán, instaure une taxe sur les exportations et décide d'une réforme agraire, qui oblige entre autres la United Fruit Company à céder une partie importante de ses terres en friche. Mais la CIA et l'administration Eisenhower, craignant l'instauration d'une tête de pont soviétique en Amérique centrale, dans le contexte du macartisme intense de l'époque, interviennent. Fin juin 1954, la CIA décide ainsi de renverser Guzmán et installe à sa place une junte militaire dirigée par le général Carlos Castillo Armas. Près de 9000 sympathisants du gouvernement de Jacob Arbenz sont assassinés ou emprisonnés dans les mois qui suivent le coup d'État. La réforme agraire est abrogée et l'United Fruit récupère non seulement les terres dont elle avait été expropriée, mais également des dizaines de milliers d'hectares de terres en friche qui avaient été distribuées aux paysans. Le président Guzmán démissionne le 27 juin 1954 et se réfugie à l'ambassade du Mexique. Le Guatemala tombe dans une dictature avec une répression féroce et s'enfonce dans la guerre civile pour 25 ans. Autour de 8000 assassinats politiques sont dénombrés entre 1966 et 1968. Arrivé au pouvoir en 1970, le général Carlos Manuel Osorio se déclare déterminé à transformer, s'il le faut, le pays en cimetière pour restaurer la paix civile. Entre 1970 et 1978, 20 000 personnes sont tuées par le régime militaire. Face à cela, dès les années 1960, une résistance paysanne se met en place pour s'opposer aux dictatures militaires qui se succèdent. Elle est soutenue par un mouvement de guérilla regroupant des militants de gauche, des officiers rebelles et de nombreux paysans. Marquée par la théologie de la libération et la défense des peuples indigènes, la guérilla s'implante dans des communautés autochtones de la région. Si les liens entre la dictature militaire et les États-Unis sont initialement très forts, l'administration de Jimmy Carter suspend en 1977 les livraisons d'armes à la dictature, en particulier en raison de la médiatisation du massacre de Panzos, où 150 paysans sont exécutés par l'armée gouvernementale. En 1982, le général Montt est à l'origine d'un coup d'État. Peu après son arrivée au pouvoir, il met en place les patrouilles d'autodéfense civile, formées de miliciens recrutés de force par l'armée et ayant comme objectif d'éradiquer la guérilla par tous les moyens. Le général met en action sa politique de la terre brûlée. Ainsi, 440 villages sont complètement rasés. Près de 200 000 Mayas sont massacrés ou encore jetés d'hélicoptères dans l'océan Pacifique. 40 000 réfugiés fuient vers le Mexique. La guérilla réagit en fondant un mouvement armé, l'Union révolutionnaire nationale guatémaltèque. Le conflit prend alors des allures de guerre civile et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Rigoberta Menchú reçoit le prix Nobel de la paix en 1992. En reconnaissance de son travail pour la justice sociale et la réconciliation ethno-culturelle basée sur le respect pour les droits des peuples autochtones. Malgré une condamnation internationale, les responsables des exactions commises par l'armée nationale entre 1960 et 1996 mettent du temps à être poursuivis. Des militaires continuent à se livrer à des assassinats de militants d'organisations sociales. Ainsi, l'évêque auxiliaire de la capitale est assassiné en avril 1998 peu après avoir publié un rapport sur le rôle de l'armée dans le conflit. La guerre civile au Guatemala aura fait au moins 200 000 morts, dont 80% d'origine indigène et 45 000 disparus, imputables à la répression policière d'État. La Commission pour l'éclaircissement historique, qui entreprend des recherches après la guerre sur les exactions perpétrées, attribue 93% d'entre elles aux troupes gouvernementales et aux paramilitaires qui les appuyaient.
C'était la chronique de Gilles Labourroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.